Alors, nous restons dans ce thème de la bonne nouvelle du Seigneur ce soir. Je vous invite à trouver Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, les versets 20 à 22. Donc, on peut déjà être reconnaissant au Seigneur d'avoir agi dans nos cœurs par son esprit, déjà à travers nos louanges ce soir. Prions aussi que donc son esprit continue son œuvre en nous à travers sa parole. Donc, Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur mon trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, ces dernières semaines, on a vu à partir de la Bible comment la présence de Dieu change notre perception de la vie, change notre expérience de la vie, change notre manière de traverser des situations et en particulier change notre manière de vivre des épreuves. On a vu comment le fait de savoir que nos vies sont entre les mains du Dieu tout-puissant, du Dieu souverain, change notre optique, parce que si Dieu est vraiment souverain sur nos vies, ça voudrait dire que rien ne peut nous atteindre sans passer par lui. Et on sait que donc, lui, on peut le connaître en tant que Père qui nous aime, et que donc, si il décide, dans sa souveraineté toute-puissante, de laisser des choses se produire dans notre vie, c'est motivé par son amour pour nous et par le fait qu'en tant que Père, il désire nous emmener plus loin dans notre expérience avec lui. On a vu également comment nous pouvons, en tant que chrétiens, connaître la présence d'Emmanuel dans notre vie tous les jours, dans toutes les situations, dans toutes les circonstances, et combien le fait de savoir que Dieu est là avec nous et qui traverse toute situation avec nous, change notre perception et nous aide dans ces moments-là à traverser les choses. C'est une bénédiction merveilleuse que Dieu nous a donnée, sa présence, le fait de le connaître, cette révélation de lui, une bénédiction merveilleuse qu'il a rendue possible par l'œuvre de Jésus-Christ. C'est puisque, comme on a entendu tout à l'heure, Jésus a obéi jusqu'à la mort, que nous avons cette bonne nouvelle à annoncer, qui n'est pas une religion, mais qui est cette relation vivante avec le Dieu vivant qui transforme tout et qui nous permet de le connaître et de nous réjouir de cette relation que nous avons avec lui. Néanmoins, la Bible nous montre qu'il y a un aspect, un élément fondamental à cette relation avec lui, fondamental à cette bénédiction de connaître la présence du Seigneur et de vivre la présence d'Emmanuel avec nous. C'est un élément qui est même, nous dit la Bible, essentiel si nous voulons connaître et expérimenter cette bénédiction de la présence d'Emmanuel dans notre vie, parce que la Bible donc nous montre que même si Dieu souhaite que tous vivent cette relation, que tous vivent cette réalité, que tous le connaissent comme un Père d'amour, que tous le connaissent comme Emmanuel, Dieu avec nous, la Bible nous dit clairement que tous ne l'expérimenteront pas. Et tous ne l'expérimenteront pas dans cette vie de tous les jours qui est cette grande bénédiction que nous pouvons connaître en tant que chrétien. Donc, je propose qu'on lise maintenant dans Jean, chapitre 1er. Jean 1, les versets 6 à 14, donc les textes qu'on a aussi traversés ces dernières semaines en pensant à la personne de Jésus et ce qu'il est venu faire. Jean chapitre 1, verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Donc le week-end dernier, nous avons vu ensemble que Jésus est venu en tant qu'Emmanuel, donc Dieu avec nous, dans l'objectif qu'à partir de cette époque-là, à partir de la venue de Jésus sur la terre jusqu'à la fin des temps, tous est l'occasion de connaître la présence de Dieu. C'était ça son objectif. Jésus disait, « Nul ne vient au Père que par moi. » Son objectif, c'était de nous conduire au Père. Il a dit, « Si vous m'invitez, nous viendrons. Si vous m'aimez, nous viendrons et nous ferons notre demeure. » Avec vous, en vous. Mais Jean souligne dans le passage que nous venons de lire quand même un problème avec ce projet de Dieu, cette offre de Dieu de faire connaître sa présence. Il dit que cette lumière est venue, donc Emmanuel, Dieu avec nous. Elle est venue pour être Emmanuel. Mais les siens ne l'ont point reçu. Ça veut dire que tous n'ont pas voulu Dieu avec eux. Si on regarde dans Luc chapitre 20, on voit jusqu'où allait cette opposition à l'idée de connaître Emmanuel, de recevoir Emmanuel, Dieu avec nous. Luc chapitre 20, verset 9, donc Jésus se mit ensuite à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne, la ferma à des vignerons et quitta pour longtemps le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'il lui donne une part du produit de la vigne. Les vignerons le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya encore un autre serviteur. Ils le battirent, l'outragèrent et le renvoyèrent à vide. Il en envoya encore un troisième. Ils le blessèrent et le chassèrent. Le maître de la vigne dit, « Que ferai-je ? J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être auront-ils pour lui du respect. » Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, « Voici l'héritier, tuons-le afin que l'héritage soit à nous. » Et ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, que leur fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr ses vignerons et il donnera le vigne à d'autres. Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils dirent, « À Dieu ne plaise. » Mais jetant les regards sur eux, Jésus dit, « Que signifie donc ce qui est écrit « La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à mettre la main sur lui à l'heure même, mais ils craignirent le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Et donc, cette parabole s'est réalisée par la suite, parce qu'effectivement, les scribes, les pharisiens, les sacrificateurs ont mis en pratique exactement ce que les vignerons ont dit au sujet de l'héritier qui venait, au sujet du fils du propriétaire qui venait. Ils ont donc été prêts à aller jusqu'à mettre Jésus à mort pour se débarrasser d'Emmanuel. On a parlé l'autre fois de certains paradoxes, n'est-ce pas? Quel plus grand paradoxe que de penser que Dieu est venu comme Emmanuel, Dieu avec nous, mais que les êtres humains sont allés jusqu'à le mettre à mort pour se débarrasser de Dieu avec nous, en pensant, si on le cloue sur une croix, ça sera fini, il n'y aura plus ce Dieu avec nous. Ils ont fait ce qu'ils ont cru aller leur en débarrasser, ce qui mettrait fin à cette histoire d'Emmanuel, Dieu avec nous, mais ce qu'ils ne savaient pas, ce sur quoi ils ne comptaient pas, c'est ce que le psalmiste a décrit dans le psaume 2, versets 2 à 4, je vais lire dans la version français courant. Les rois de la terre se préparent au combat, les princes se concertent contre le Seigneur et contre le roi qui l'a consacré. Rompons les liens qu'ils nous imposent, disait-il, rejetons leur domination. Mais le Seigneur se met à rire. Celui qui siège au ciel se moque d'eux. Les gens se sont dit, il vient en tant qu'Emmanuel, Dieu avec nous, nous on ne veut pas ce Dieu-là avec nous, donc débarrassons-nous-en, mettons-le à mort, comme ça il ne sera plus avec nous. Mais celui qui siège au ciel se moque d'eux, le Seigneur se met à rire, parce que comme on a vu l'autre fois, leur geste de mettre Jésus sur la croix, de dire « ainsi nous nous en débarrasserons », c'est justement ce qui a permis à Jésus d'accomplir au mieux son ministère. Grâce au fait qu'il voulait se débarrasser d'Emmanuel en le clouant à une croix, Jésus est devenu pour toujours le ressuscité. Il a été élevé auprès du Père, sur le trône. Il a pu envoyer son Saint-Esprit pour que maintenant Emmanuel ne connaît plus les limitations géographiques d'un corps humain, mais qu'il puisse venir dans toute son Église, habiter donc dans toute chair, comme il l'avait promis et comme on a vu la semaine dernière. Donc, des uns n'ont pas voulu de cet Emmanuel. Mais Jean nous dit quand même que ceux qui le reçoivent deviennent enfants de Dieu. Pour ça que j'ai dit tout à l'heure que c'est un élément fondamental, essentiel, si nous voulons connaître la présence d'Emmanuel avec nous, si nous voulons connaître la bénédiction de pouvoir traverser des situations avec lui, connaissant que Dieu est notre Père tout-puissant et souverain, ce Père d'amour, puisque finalement, pour qu'il y ait un Père, il faut qu'il y ait des enfants. C'est cela qui crée cette relation, et Jean nous dit que le moyen de connaître cette relation, donc cette bénédiction, c'est de recevoir cette lumière qui a été envoyée dans ce monde, de recevoir Emmanuel, Dieu avec nous, parce que celui qui le reçoit, dit-il, devient enfant de Dieu. Et Romains 8, 17 nous dit, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus-Christ. À cause de ce statut que nous avons d'être devenus enfants de Dieu par cet acte du Saint-Esprit. Il y en a donc qui ont rejeté Emmanuel. Cette lumière est venue vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, cette lumière a fait d'eux des enfants de Dieu et donc héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Et c'est cela qui nous donne accès à cette bénédiction de connaître la présence de Dieu avec nous en toutes circonstances, de vivre ces circonstances avec lui, le connaissant tel qu'il est, puisque Éphésiens chapitre 1, versets 13 et 14 nous dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, donc vous l'avez reçu, cette lumière qui est venue, vous avez reçu Emmanuel, et vous avez été scellé du coup du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » On avait vu la semaine dernière que donc ce statut, cette notion d'Emmanuel, Dieu avec nous, a été pérennisé maintenant pendant tous les siècles grâce au Saint-Esprit qui a été donné. Mais Paul nous dit que le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. Donc c'est la première partie qui garantit tout le reste de l'héritage, mais qui touche à l'héritage. Ce sont les héritiers. Et les héritiers, ce sont les enfants, selon Romains 8. Et les enfants, selon Jean 1, ce sont ceux qui ont reçu la lumière qui est venue, qui ont accueilli Emmanuel, qui ont accueilli ce Fils unique venu du Père et qui leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu et donc héritiers et donc de recevoir le gage de cet héritage. Et c'est là où justement nous retrouvons ce texte que nous avons lu ensemble tout au début, dans Apocalypse chapitre 3. Donc à tous ceux qui ont reçu, qui ont accueilli cette lumière, ils ont reçu ce pouvoir de devenir enfants de Dieu. Apocalypse 3, verset 20, Jésus qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, qu'est-ce qu'il fera? J'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Comme il disait dans Jean, nous ferons notre demeure avec lui. Nous entrerons dans sa vie. Jean parle de ceux qui ont reçu, qui ont accueilli cette lumière. Apocalypse, il parle de celui qui ouvre la porte, mais avec le même résultat, de connaître la présence d'Emmanuel, cette promesse de pouvoir par la suite traverser la vie avec cette bénédiction, de connaître la présence de Dieu avec nous en toute situation, en toute circonstance. Donc, lorsque on accueille celui qui est venu, ce Fils unique venu du Père, lorsqu'on ouvre la porte pour que Jésus puisse entrer, il fait sa demeure en nous, il devient à ce moment-là véritablement Emmanuel qui transforme nos circonstances. C'est pour cela que l'Évangile est véritablement une bonne nouvelle qui transforme notre vie. Pour ceux qui ne reçoivent pas, qui refusent de connaître Emmanuel, il ne peut pas avoir cette bonne nouvelle, cette promesse, car cela dépend de cette relation avec lui. Il n'est pas Emmanuel pour ceux qui le rejettent. Le fait de le rejeter veut dire « je ne veux pas Emmanuel, je ne veux pas Dieu avec nous », comme les scribes et les sacrificateurs à l'époque ont dit « nous ne voulons pas Emmanuel, Dieu avec nous, donc nous nous en débarrassons ». Mais la Bible nous montre donc que si nous voulons connaître Emmanuel, vivre cette expérience, cette bénédiction, alors premier pas, il faut ouvrir la porte de notre cœur pour que Jésus, Emmanuel, puisse entrer. Il faut ouvrir cette porte pour l'inviter à entrer. Il nous laisse donc maître de cette situation. Il nous laisse le choix devant sa venue. Il ne s'impose pas comme Emmanuel. Il dit, je vous propose de me connaître comme Emmanuel, Dieu avec vous. Mais c'est à vous de me recevoir ou de me rejeter. Donc, on doit l'inviter à entrer dans notre vie par nos paroles. Ça peut être par une prière où nous demandons au Seigneur d'entrer dans notre vie. Mais ça va au-delà de juste nos paroles, de juste une prière. C'est aussi une invitation qui nécessite le choix ou des choix fondamentaux pour ouvrir cette porte de notre vie, de notre cœur. Dans Actes 2, 38, au jour de la Pentecôte, Pierre décrivait ce choix sous les termes de la repentance. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Dans Luc 9, Jésus disait dans le verset 23-24, « Si quelqu'un veut venir après moi, donc si quelqu'un veut m'inviter dans sa vie, à être Emmanuel dans sa vie, qu'il renonce à lui-même, ce qui finalement revient aux mêmes choses que la repentance, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Et donc on a déjà mentionné Jean 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Donc, la repentance, le fait de renoncer à soi-même et se charger de sa croix, donc d'accepter que lui y règne tous les jours, de garder sa parole, tout cela, nous dit la Bible, fait partie de cette invitation qui nous permet d'ouvrir la porte à celui qui est là à la porte et qui frappe avec ce désir de devenir Emmanuel, Dieu avec nous dans notre vie. Et donc, le week-end dernier, on a vu comment Jésus est venu pour recevoir ce nom d'Emmanuel, Dieu avec nous, qui a dit à ses disciples qu'après, ce serait bénéfique pour eux qu'ils s'en aillent, parce que en partant auprès du Père, il enverrait le Saint-Esprit qui ferait perdurer cette relation d'Emmanuel, Dieu avec nous. Et donc, autant on est appelé dans la Bible à inviter Jésus, autant la Bible aussi nous encourage dans la réalité de notre vie de tous les jours d'aujourd'hui d'inviter le Saint-Esprit à venir comme Emmanuel dans notre vie, à nous tous, si nous sommes ses enfants. Romains 8, verset 9 nous dit, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Pierre avait dit en acte 2, « Repentez-vous et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Qui veut dire que donc l'Esprit vient pour être Emmanuel, pour permettre cette relation d'Emmanuel, Dieu avec nous, lorsque en fait l'initiative de répondre à l'appel de Jésus, d'ouvrir la porte, de l'inviter à entrer dans notre vie. Mais cela dit, donc, c'est intéressant de voir le contexte de cette parole de la part de Jésus en Apocalypse 3, quand il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Jésus, à ce moment-là, n'était pas dehors en train de faire un appel à qui veut de venir auprès de lui. On a vu le dernier verset de ce chapitre qui conclut donc ce passage de Jésus qui s'adresse à l'Église. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Ce qui veut dire que c'était à l'Église que Jésus adressait cet appel en disant « Je suis devant la porte. Je vous demande de m'ouvrir. » Ça veut dire qu'il est possible de vivre avec Emmanuel, d'avoir Dieu qui ait pris l'initiative de venir jusqu'à nous sans nous permettre d'être vraiment Emmanuel. D'avoir dit oui, j'invite Jésus à venir dans ma vie, et puis un peu comme dans l'histoire qu'on avait lue il y a quelques semaines, la servante, lors de la réunion de prière pour l'apôtre Pierre, vous vous souvenez, lorsque Pierre a été libéré miraculeusement de la prison et qu'il est venu à la maison, elle dit « Ah, mais c'est formidable, Dieu a exaucé nos prières, Dieu a fait ce qu'on a demandé, Dieu a libéré Pierre de la prison. » Et puis elle l'a laissé à la porte dehors. Parfois, ça nous arrive de faire ça avec Emmanuel, Dieu avec nous, Jésus. Il dit « Oui, oui, viens dans ma vie. » Mais dans la réalité de la vie, après le moment où nous ayons pris cette décision, nous nous laissons devant la porte. On oublie de le faire, entrer. Ou on vit comme s'il n'était pas réellement Emmanuel. Et c'est pour cela que si vous lisez à la maison Romains 6 et 1 Corinthiens 6, Paul est obligé de rappeler aux chrétiens ce qui s'est passé lorsqu'ils sont devenus chrétiens, et en particulier ce qui s'est passé lorsqu'ils ont été baptisés. D'ailleurs, c'est pour cela que souvent, quand on fait les baptêmes, on se concentre pas mal sur ce passage dans Romains 6. Paul dit, mais n'oubliez pas, lorsque vous avez pris la décision de devenir chrétien, d'inviter Jésus à entrer dans votre vie, vous avez répondu à cet appel de vous repentir, comme acte 2. Vous avez répondu à l'appel de renoncer à soi-même et de se charger chaque jour de sa croix. Vous avez répondu à cet appel de garder sa parole. Finalement, Paul dit, lorsque on devient chrétien, on accepte de mettre fin à la vie où c'est moi qui contrôle tout, où je fais ce que je veux faire avec ma vie, où je garde les droits sur ma vie. Sinon, c'est comme dire « oui, viens chez moi » et puis laisser Jésus sur le pas de la porte en disant « je te veux chez moi ». Mais bon, pas là, pas là, pas là, pas dans tel domaine, pas dans tel jour, pas dans tel choix. Je veux garder ma vie telle qu'elle. Et il est là devant la porte. On dit, lorsque vous avez été baptisé, vous avez dit que vous étiez en train d'ensevelir votre vie d'avant. Comme on dit souvent, lors des cultes de baptême, c'est pour ça qu'on garde ce symbolique de plonger la personne sous l'eau, comme si on était en train de les mettre dans un trou, parce qu'il dit, c'est l'ensevelissement de votre vie d'avant. En invitant Jésus, vous avez dit que cette vie-là est terminée, vous l'avez ensevelie. Il dit dans Romains 6, si on vous fait sortir de l'eau, c'est pour proclamer que vous sortez de la tombe non plus pour être la personne que vous étiez avant, mais dans la résurrection de Jésus-Christ, pour vivre en nouveauté de vie, où c'est lui maintenant qui prend les contrôles. On a un descriptif de ce changement dans Galates chapitre 5, à partir du verset 16, qui montre pourquoi il est important aussi d'inviter du coup le Saint-Esprit à venir être véritablement Emmanuel, Dieu avec nous. Non pas Dieu devant la porte, mais Dieu avec moi dans ma vie. Verset 16, donc, je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Pour ça que Pierre parle de repentance, que Jésus parle de se charger de sa croix et de renoncer à soi-même, que celui qui voudrait sauver sa vie, qui voudrait garder le contrôle de sa vie, la perdra. Parce que la chair et l'esprit sont opposés entre eux. Notre chair va toujours vouloir ce qui est contraire à l'esprit et vice-versa. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Donc là aussi, quand il s'agit du Saint-Esprit, la Bible nous met devant un choix clair, si oui ou non, nous voulons connaître Emmanuel en tant qu'Emmanuel dans notre vie de tous les jours. Mais la Bible dit, si vous voulez vraiment qu'il soit Emmanuel, ça veut dire chercher l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi et d'abandonner toutes ces caractéristiques qui sont des caractéristiques de notre chair et qui veulent l'opposer de ce que veut l'Esprit. On doit donc faire ce choix d'inviter le Saint-Esprit à prendre le contrôle de notre vie, à être véritablement Emmanuel dans ma vie, pour que ce ne soit plus moi qui suis aux commandes, pour que ce ne soit pas plus moi qui dirige tout, mais que ce soit lui qui soit véritablement Emmanuel, Dieu avec nous. On invite, donc, comme pour Jésus, par la prière. D'ailleurs, en Luc 11, verset 13, Jésus disait, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Donc, on doit le demander, l'inviter à entrer, mais aussi, comme pour Jésus, faire ce choix pratique, avoir ce désir pratique de dire, ben, Seigneur, mon désir, c'est que tu sois véritablement Emmanuel dans ma vie. peu importe ce que cela implique. Je reconnais que cela implique le fait de devoir mettre à mort ma chair, car ma chair va vouloir ce qui est opposé à l'esprit. Moi, je veux que ton esprit soit Emmanuel dans ma vie. Donc Dieu, de son côté, a fait tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions vivre connaissant la bénédiction de le connaître en tant qu'Emmanuel, qui est là avec nous dans nos circonstances, qui garde nos vies entre ses mains, qui met toute cette bénédiction en route dans notre vie par son amour, par sa toute-puissance, par sa souveraineté. Mais il nous dit, pour en bénéficier, il faut me permettre d'être Emmanuel. Il faut vouloir que je sois Emmanuel. Donc, encore aujourd'hui, si on désire cette bénédiction, on a besoin de le laisser être Emmanuel dans notre vie. Pour certains, peut-être ça voudrait dire inviter Jésus à entrer dans notre vie, faire ce pas de la repentance, faire ce pas de dire: Seigneur, même si je dois renoncer à moi-même, même si je dois me charger chaque jour de ta croix, je veux te suivre parce que je voudrais que tu sois Emmanuel dans ma vie. Peut-être pour d'autres, ça voudrait dire inviter le Saint-Esprit à être véritablement Emmanuel dans notre vie, à gouverner notre vie, à contrôler notre vie, à diriger notre vie. Le Seigneur, de son côté, a tout fait. Mais il dit, c'est uniquement possible pour ceux qui reçoivent, pour ceux qui accueillent Emmanuel. Donc, que ce soir encore, si on a envie de connaître cette bénédiction, que nous puissions l'inviter et lui dire: Seigneur, je désire que tu sois Emmanuel dans ma vie. Amen.